Je viens de vous lire le psaume 33. J'aurais pu aussi bien lire le 8, le 104, ou même le 136. On y chante de la même manière la puissance, la bonté de Dieu, le grand architecte de la création. Vous savez, on s'habitue vite à la poésie biblique, à la musicalité des psaumes. Et pendant que la musique passe, on s'endort. Bienheureux. Glissant sur ces paroles un peu toujours les mêmes. Et il faut quelquefois que survienne dans nos vies un événement, une crise, pour que tout à coup, la vieille chanson fatiguée devienne à nouveau piquante, vivante, qu'elle se mette à parler comme si c'était la toute première fois. Nous sentons-nous encore vivants, sœurs et frères, quand nous lisons la parole? Malgré toute la fanfare d'instruments cités au début du psaume, je m'assoupissais donc en relisant ces belles paroles. Oui, les paroles du Seigneur sont vraies. L'amour du Seigneur remplit la terre. Par sa parole, il a fait le ciel. Tous les habitants du monde tremblent devant lui, pendant que moi, je m'endors. Voilà comment on passe à côté des perles de l'Écriture, en nous assoupissant. Et il est vrai, à notre décharge, qu'il y a eu d'illustres dormeurs bibliques avant nous. Je pense à Jonas, bien sûr, mais nous en avons rencontré un trio lors de notre dernière étude biblique au jardin de Gethsémané. Effondrés de sommeil, les disciples. Et vous savez ce qu'ils ont fait juste avant de s'endormir? Juste avant, ils ont lu les psaumes. Alors que je somnolais comme un bienheureux en lisant le psaume 33, est arrivé le verset 10. Et je l'ai pris en pleine figure. Le Seigneur a brisé le plan des nations. Il a anéanti les projets des peuples. Jusque-là, ça se chantait, ça louait Dieu à pleine voix. Et là, soudain, là, le psaume prend une tonalité différente, dure, une tonalité offensive. Dieu n'est donc pas seulement le génial architecte, il est aussi quelqu'un qui démolit les projets. Du haut du ciel, le Seigneur regarde et voit tous les hommes. Il voit donc les Poutines, les autres Bachar al-Assad, oui. Il voit aussi les violents subtils, ceux qui manipulent l'idéal démocratique à leur guise, pour parvenir à leur fin. Il les voit. Bref, il est dit ici que Dieu ne laisse pas le crime impuni et qu'il défait les plans des méchants. Bon, et nous, dans tout ça? On a envoyé une armée sur personne, on n'a pas les mains pleines de sang. Quelle parole nous adresse ce verset 10? Il est dit que Dieu défait les projets des gens. C'est pas très porteur comme message à l'heure où c'est la réalisation de soi qui prime. Sur tous les projets de société d'ailleurs. D'abord soi. Allez dire à vos amis, pour témoigner de votre foi, tu sais, mon ami, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui démolit tes projets. C'est pas très vendeur comme témoignage, comme façon d'évangéliser. Et ce qui rend la chose encore plus compliquée, c'est que Dieu a été récupéré par les services des ressources humaines aujourd'hui. La spiritualité est devenue un facteur positif. Une potentialité pour la réalisation de soi et même pour la réalisation de l'entreprise. Et j'ai rencontré récemment une très sympathique personne qui me disait qu'elle était très croyante, chrétienne, presque protestante, me disait-elle, mais qu'elle ne voulait surtout pas se fixer dans une église. Et elle s'était fabriqué un Dieu sur mesure qui répondait à ses aspirations spirituelles. Un Dieu un peu protestant, mais catholique aussi. Un peu bouddhiste sur les bords, j'ai trouvé. J'ai pas eu le courage de lui répondre que le Dieu en lequel je croyais moi, le Dieu de la Bible, commençait toujours par passer le bulldozer dans nos vies. Parce que Dieu a des projets pour nous, mais ce ne sont probablement pas ceux auxquels nous pensons. Je n'ai pas osé dire à cette personne que sa manière de concevoir la place de Dieu dans sa vie était à l'opposé de ce que le message biblique enseignait depuis la nuit des temps. L'homme fonctionne toujours à peu près de la même façon. Il fait des projets. Nous avons des rêves, des convictions. Nous nous fixons des priorités, des buts. Et puis, une fois que notre personne est bien mobilisée, remplie, passionnée par ce projet de vie, et que nous sommes chrétiens, nous nous disons maintenant que j'y vois bien clair sur ma vie, il faudrait quand même que je fasse une petite prière. Il faut que ça suive là-haut. Hein. Seigneur, bénis mes projets. Et on prend soin d'ajouter à la fin, parce que ça fait humble quand même, que ta volonté soit faite. Mais en réalité, il n'y a plus aucune chance pour que la volonté de Dieu se fasse. La nôtre ayant déjà tout décidé, tout planifié. On fait des prières un peu comme on met une pièce dans un distributeur de boissons fraîches. C'est un peu trivial hein, comme comparaison, vous m'en excuserez, mais ça fait sens. Vous mettez la pièce et blong, la bénédiction tombe, vite, lourd. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas là pour entériner nos projets, pour valider nos rêves. Nous avons inversé les rôles. C'est nous qui donnons les ordres à Dieu, un Dieu exécutant. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans le psaume 33. Dieu déjoue le plan des nations. Ce ne sont pas, le mot nation est important, ce ne sont pas les nations comme on l'entend aujourd'hui. C'est le mot goïm en hébreu, qui désigne en réalité toute chose, toute réalité, qu'elle soit personnelle ou communautaire ou nationale, toute réalité qui est extérieure à l'alliance de Dieu. Les nations ne sont pas séparées d'Israël par des frontières, mais par l'acceptation ou le rejet du Dieu unique, souverain, le Dieu qui fait alliance avec quiconque le reconnaît comme le Seigneur. Dieu défait les projets de ceux qui se comportent comme s'ils n'existaient pas. Et je crois que notre bon christianisme ne nous immunise pas contre la tentation de faire comme si Dieu n'existait pas. Et c'est pour ça que ce psaume a bien l'intention de ne pas nous laisser dormir tranquilles. L'enjeu est en réalité colossal. Vais-je enfin laisser à Dieu le champ libre pour m'entraîner vers les projets qu'il a fondés pour moi ? Plutôt que de chercher son approbation, sa caution, après coup, pourquoi ne laisserais-je pas un moment de côté mes rêves, mes projets, pour laisser celui qui a créé les cieux et la terre s'occuper un peu de moi, m'instruire, au plus profond de moi-même, m'instruire de ce qu'il veut pour moi. Vous vous souvenez peut-être de cette parole du prophète Jérémie. Voici les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et une espérance. Il faut apprendre à faire taire en nous cette stupide prétention à tout maîtriser. Alors, je n'ai pas de méthode miracle à vous proposer maintenant. Simplement, peut-être avant toute prise de décision, prenons le temps de faire silence. Demandons à Dieu de guider nos cœurs. La recherche du projet de Dieu ne court-circuite pas nos désirs, notre intelligence. Mais il faut y associer la foi, la confiance, la patience aussi. La consultation de personnes sages. Peu à peu, une conviction va se dessiner. Et à l'épreuve des réalités, nous découvrons que, quelquefois, que malgré tout cela, nous nous sommes trompés. Soyons assurés alors que Dieu ne nous abandonnera pas à notre errance. Il se veut pour nous compagnons de vie, bienveillants et proches, quoi qu'il arrive. Je vais prendre un exemple un peu dérangeant, si vous permettez. Celui de notre vie de prière. Je peux décider de mettre la prière au centre de ma vie. Quel beau projet, hein ? Vous en convenez tous. Comme le coureur qui veut réaliser une performance au marathon, on va s'entraîner. La prière devient une sorte de sport au bout duquel, à force de sérieux, de pratiques intensives, nous pensons pouvoir obtenir ce que nous demandons à Dieu. Nous pensons être devenus puissants dans la prière. On ne le dit pas comme ça, bien sûr. Mais si j'en crois le psaume 33, ce n'est pas comme ça que ça marche, la prière. Le Seigneur défait les plans des hommes, même de ceux qui ont formé le projet de devenir des êtres très spirituels. Je n'invente rien. Jésus nous avait déjà mis en garde à ce sujet-là, celui de la prière. Les païens aussi, à nouveau, les goïms. Les païens aussi croient qu'en multipliant les vaines paroles, ils obtiendront de Dieu ce qu'ils demandent. Oui, ils obtiendront quelque chose. Le passage du bulldozer sur leur moulin à prière. Et à partir de là, quelque chose va pouvoir se passer de nouveau. L'apôtre Paul, dans une de ses épîtres, nous indique quelle est la seule manière de prier en vérité. Il faut laisser l'Esprit-Saint le faire à notre place. On croit souvent que l'Esprit-Saint est un peu le facteur qui va poster notre prière dans la boîte aux lettres de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas le pigeon voyageur de nos messages. Le Saint-Esprit, c'est le prieur du temple de nos vies. L'Esprit Saint, qui était déjà à l'œuvre à côté de Dieu au moment de la création des cieux et de la terre, est aujourd'hui à l'œuvre dans la nouvelle création que nous sommes. Ça a été lu ce matin. En Christ. C'est lui qui peut produire de nos bouches la prière juste et véritable qui va monter vers le Seigneur et obtenir l'exaucement. Que mette ce verset encore un petit peu plus loin. Voilà. Dieu a envoyé dans nos cœurs, écrit Paul, l'Esprit de son Fils, lequel crie dans nos cœurs, Abba Père. Nous avons le sentiment, en priant, de nous être approchés de Dieu. On l'entend souvent, s'approcher de Dieu. Mais c'est en fait une illusion d'optique. C'est Dieu qui s'approche de nous en Jésus-Christ. C'est encore lui qui souffle sur nos vies l'Esprit du Christ et qui murmure à nos oreilles la véritable prière. Pas pour rien que Jésus nous a enseigné le Notre Père. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Laisserons-nous au Seigneur un peu de place, sœurs et frères, pour qu'il vienne habiter nos vies, inspirer nos projets et mettre des mots aussi sur nos prières. Et puisque dans le psaume, il est dit que c'est lui qui a formé le cœur de chacun, ben je vous invite maintenant à vous tourner ensemble avec moi vers le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, viens rétablir ton règne d'amour dans nos vies. Sors-nous du sommeil. Viens réorienter nos existences perdues, fatiguées ou arrogantes. Que ta parole reçue ce matin devienne pour chacun de nous, par l'œuvre secrète et intérieure de ton esprit, le socle d'une existence nouvelle en Christ, notre Seigneur. Amen.